Sud.
Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. On reprend nos bonnes vieilles habitudes et on retrouve avec bonheur notre ami Pierre Houde. Salut Pierre!
Hey, salut Denis, le bonheur est partagé. Bonjour Véro.
Allô Audrey.
Allô.
Et bonjour à tous. Le bonheur est partagé. Quand je saute une semaine, je trouve ça difficile, mais il y avait une bonne raison vendredi dernier.
Pierre, j'oserais dire que ton frère t'a fait voyager dans l'espace dans la dernière semaine parce qu'il y avait le planétarium, il y a eu l'éclipse. J'ai l'impression que ton frère a été pas mal omniprésent dans tes pensées dans la dernière semaine.
Particulièrement la demi-heure avant la totalité.
Ouais.
Parce que ça a été assez court à Montréal, la totalité. Nous, on avait, au parc Jarry, là où j'habite, en face, on avait à peu près 1 minute 10. C'était pas bien long.
Non.
ma sœur a été plus chanceuse à Bromont. Elle avait quasiment 3 minutes.
Wow.
Je sais pas à Québec combien vous avez eu.
Nous, Québec, c'était pas total. C'était du côté de la Beauce à Saint-Georges. Il y avait un 2-3 minutes à peu près de total de ce côté-là. Nous, il nous manquait quoi? 1,3
1,3
pour que ce soit total. Ça s'est obscurci, mais pas comme vous autres.
À ce point-là. Ouais. Okay.
Ça a l'air que la différence est marquante entre le 100% et le 98 ou le 99%.
Ben, c'est tellement marquant, Denis, que ça m'a refrappé de voir que dès que la totalité se termine, ça prend. On a l'impression, en tout cas, que c'est 1 cm. J'image évidemment au maximum. Et bang, tu vois soudainement cette espèce de faisceau de luminosité qui revient instantanément. Alors, j'ai été chanceux parce que j'ai été capable de voir la totalité de mon balcon.
Wow.
J'ai un arbre qui n'est pas feuillu encore. Alors, quand la totalité s'est terminée, le soleil se déplaçait derrière quelques branches. Mais jusque-là, j'ai été capable de voir la totalité.
Tu avais tes lunettes, alors, Pierre.
Oui, j'avais mes lunettes, puis je les ai enlevées pour la totalité parce que il faut vraiment se préparer puis les remettre rapidement. Et puis, c'était très émouvant. C'était émouvant, mais c'était aussi en même temps très, très zen comme moment parce que je me disais, bon, il y a un moment où je vais vraiment commencer mon deuil, comme on dit. Le mot est peut-être fort, mais c'est ça quand même. Mm-hmm. Et puis, je me disais, ben, probablement que l'éclipse, ça va être le moment pour le commencer, pour le faire. Mm. Mais la vie nous donne des fois des courbes extraordinaires. C'est que ce que je redoutais peut-être, beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie, tout ça, un petit brin, mais beaucoup, beaucoup de plénitude aussi, beaucoup de sérénité. Et donc, c'était fascinant parce que moi, j'ai le parc Jarry, ben, tu le sais, tu es venu dans mon bout, Denis, et Véro aussi.
Mm-hmm.
J'ai le parc Jarry l'autre côté de ma rue. Et dans la demi-heure avant la totalité, on avait l'impression qu'on était à Woodstock.
Tellement qu'il y avait de monde qui attendait.
Ben, qui se sont rués. Puis nous, on a le métro Castelnau juste à côté, Véro. Alors, les gens sont arrivés en métro, sont arrivés en voiture, sont arrivés à pied, en vélo, puis il faisait beau en plus.
C'est dans tous les films de science-fiction là, où, à un moment donné, le monde attend de l'arrivée des extraterrestres.
Ça ressemblait à ça,
on avait l'impression que c'était ça en Beauce, puis à Montréal. Tu sais.
Écoute, Denis, un peu plus, puis je m'attendais à entendre...
C'est le parallèle que j'ai fait la semaine passée avec Rencontre du troisième type.
mais c'était... C'est extraordinaire parce que c'est là que tu vois que la nature humaine demeure la nature humaine, mais il nous manque de moments magiques comme celui-là. Quand on était à peu près 30 secondes de la totalité, il y a eu comme un crescendo là, de cris, de rires, de joie. Tout était hyper joyeux, émerveillé. Puis là, quand on a été capable d'enlever les lunettes, ça a été l'explosion, le délire dans le parc Jarry. Puis moi, je le vivais de mon balcon en plus, avec un petit verre de vin blanc. C'était vraiment absolument extraordinaire. Et t'as raison, après tout ce qu'on avait vécu au planétarium, en chapelle ardente, le vendredi précédent, c'était comme, l'espèce de pièce de résistance là, qui s'ajoutait. Tu sais, c'est pas l'éclipse seulement de la famille Hood, le comprenez-moi bien, c'est l'éclipse à tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que...
Total l'éclipse of the Hood.
Non, c'est ça. Ouais, bon, je peux dire, on n'a pas cette prétention-là, c'est l'éclipse à tout le monde. Mais c'est sûr que dans le contexte, la coïncidence était là.
Ouais.
Et donc, ça a été un très, très beau moment qui a suivi en fin de compte, et avec le recul, une très, très belle fin de semaine réussie comme dernier hommage à mon frère.
Comment ça a été au planétarium? Je me dis toujours que ce genre de journée-là, pour les proches et la famille, ça doit être terriblement éreintant parce que tu as le côté public. Il y a énormément de gens qui se sont déplacés. Je veux dire, on l'a vu dans les chaînes d'information en continu et ainsi de suite. Comment tu l'as vécu cette journée-là, Pierre?
C'est éreintant. Je peux te dire une chose. J'avais un très bon soulier, un soulier de toilette, mais souple, qui était assez large. Et écoute, j'avais tellement mal aux pieds le soir. Lynn aussi. Et là, on se disait, imagine les Mulroney, ils ont fait ça quoi, deux ou trois jours?
Oui, oui.
Bon, nous, ça a été genre de 10h le matin à 20h à peu près ou à 19h30.
On aurait dû se parler avant. J'ai des bons Crocs pour ça. Tu vas me dire que c'est pas de cérémonie, là, mais...
Écoute, je suis pas sûr que je les aurais portés, merci de l'intention. Mais je commence par ça parce que tu me demandais, ça doit être éreintant. Oui, c'est éreintant. Mais si vous avez entendu mes directs, j'en ai fait quelques-uns, LCN puis RDI, je te dirais, et même avec Patrice Roy au Téléjournal, j'avais pas d'autre mot que dire qu'on venait de vivre une expérience de vie. Rien de moins que ça. Et ça nous rappelle à quel point... notre métier est fabuleux, mais il y a un mur tout à fait normal entre nous qui sommes les émetteurs et des milliers de personnes qui sont les récepteurs à l'autre bout. C'est facile d'imaginer un auditoire, c'est facile d'imaginer quelqu'un qui écoute dans un contexte comme vous, par exemple, la voiture, le travail, à la maison, dans les bureaux, dans les hôpitaux, et ainsi de suite. Nous, au hockey, on imagine des gens dans leur salon ou dans un... resto-bar, parce que Véro m'envoie souvent des photos, très belles d'ailleurs, Véro.
Merci, mais c'est mon classique, j'ai pas le choix.
Mais ta dernière était particulièrement réussie.
Mais merci.
Tu étais très jolie à regarder, mais je regardais Marc et moi en arrière. Je sais pas comment se dire, mais on était tordus de rire comme ça, mais en tout cas, bref. mais donc, à partir de 10h le matin, c'est que là, on a rencontré des gens de toutes les souches, et je dis toutes les souches au sens large, là, pas seulement sur le plan culturel ou sur le plan ethnique, des gens, des anciens de notre milieu, j'ai revu des gens qui m'ont ému aux larmes à les revoir, Claude Poirier, Gilles Proulx, les bêtes de radio, André-Philippe Gagnon, que j'avais pas vu depuis des lunes, André-Philippe est arrivé tout discret, des comédiens, des boys, mes anciens collègues de CFGL, de CKAC, c'était extrêmement touchant. Mais aussi, je dirais, chaque personne qui sont venues pour rendre hommage à Paul, chaque personne avait son Paul.
Ah, c'est drôle,
Alors, Madame X avait son Paul parce que là, elle me racontait ce que voulait dire Paul dans sa vie. Monsieur Z avait son Paul et même des collègues avaient des visions, des appréciations différentes. Et là, quand j'ai commencé à faire la somme de tout ça vers 19h, je me suis dit, c'est extraordinaire, on fait vraiment le plus beau métier du monde. Je ne sais pas si on... Des fois, on l'oublie peut-être, Denis, là, mais c'est extraordinaire parce que tu dis... Bon, je comprends qu'on a tous les deux des carrières de près de 50 ans, puis Dieu merci, Dieu nous a prêté vie, comme on dit, puis on est resté quand même à flot. Mais c'est très, très humble de se faire dire à quel point on représente autant pour les gens. Et donc, ça, c'était vraiment une expérience de vie fascinante. Mais imagine-toi dans le dôme, du planétarium, une des deux salles d'exposition, pas d'exposition, mais c'est-à-dire de visionnement. C'était tout bleu. Il y avait de la musique. Enfin, c'était vraiment du... Je ne sais pas, j'ai de la misère à parler du genre musical. C'était pas... c'est vraiment... Il n'y a pas vraiment de mélodie. Ce sont vraiment des accords. Là,
la musique de l'électronique ambiante, là. Ouais, c'est ça. Là.
Ouais, tu sais ce que je veux dire. Ouais, hein, ouais, c'est, ouais. Et puis, très bien choisi, rien d'agressif. Et le planétarium, tiens-toi bien, avec un algorithme, avait recréé le ciel de Montréal pour chaque journée de la vie de Paul.
Ben voyons, c'est donc bien hot, ça.
C'est hallucinant. Ça commençait, évidemment, c'était une boucle. C'était quand même assez long, la boucle. Là, tu recommençais le 25 août 1954. Puis là, tu avais le ciel qu'il y avait à Montréal le 25 août 1954. Après ça, le 26, puis le 27.
C'est
puis
qui a eu cette idée-là, Pierre? C'est donc bien
ce sont les gens du planétarium qui ont eu cette idée-là. Ça. Ben oui, puis avec les algorithmes pour aider à concevoir tout ça, parce que ça se ferait manuellement, mais ça prendrait des années, là, pratiquement. Alors, ils ont réussi à le faire, donc c'est intéressant. Des fois, j'attendais une date en particulier, puis là, je disais, bon, qu'est-ce qu'on avait dans le ciel ce soir? Ah, Vénus était très exposée, ou Jupiter était visible, ou peu importe. Alors... on avait tout ça en toile de fond, tu comprends? Alors, ouais. Ça a vraiment, vraiment été extrêmement riche, extrêmement réconfortant. Puis, ça nous a donné, dans le fond, la vitamine qu'il fallait pour la cérémonie du samedi, qui était une cérémonie beaucoup plus émouvante, évidemment. Là, c'était vraiment le revoir comme tel. Pierre Grandmaison a touché les grandes orgues à la chapelle de la Basilique. Pierre est un des plus grands au monde, c'était un bon ami de Paul. On avait une chanteuse absolument exceptionnelle. Marc Labrèche a parlé de façon extraordinaire. Charles Lafortune aussi. Ma sœur a été excellente. On me dit que j'ai été pas pire, moi aussi. Alors donc, et après ça, on s'est réunis pour un goûter. Puis là, ben, c'était les gens du milieu, la famille. Bref, tu sais, tu te dis, il n'y a pas de façon magique là, de dire au revoir à quelqu'un, mais. Si tu me disais, là, avez-vous un alignement de planète qui était bon, là, on l'a eu la fin de semaine passée, même s'il ne faisait pas bien beau, par exemple.
Je comprends qu'il n'y a pas encore énormément de recul face à ces événements-là, mais est-ce que déjà tu es capable de dire les deux célébrations étaient importantes puis les deux célébrations étaient nécessaires, autant le côté public que le côté intime?
Absolument, Denis. Puis tu sais, je répète, on fait pas ce métier-là pour la reconnaissance. Enfin, il y en a peut-être qui le font, mais ils ont la mauvaise idée. On le fait parce qu'on est des passionnés, on le fait parce qu'on respecte les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Et puis, donc, quand tu as ce genre de retombées, tu y crois pas que t'as un tel impact. Mais ça, il le fallait, je pense. Et même si on reste humble, je pense que c'est extrêmement... extrêmement satisfaisant, extrêmement gratifiant que de recevoir cet hommage-là. Et le lendemain, malheureusement, j'ai oublié son nom, je m'en veux, mais le célébrant de la cérémonie du samedi était exceptionnel. Il était tellement contemporain, un orateur fantastique, très jeune, très nouveau dans son message, dans son approche. Et il a été réconciliant comme vraiment rarement quelqu'un aurait pu l'être vu la lourdeur, pas la lourdeur, mais vu les émotions très, très intenses de la cérémonie.
Je ne sais pas si les gens qui font ça sont conscients de l'importance qu'ils ont cette journée-là, parce que j'ai eu la chance ou la malchance de vivre les deux. Quand un célébrant est obligé de regarder sur ses cartons pour lire le nom de la personne décédée, puis que tu as l'impression qu'il n'y a pas de connexion, puis qu'il fait ça... comme n'importe quel autre boulot, comme n'importe quel
comme
autre job. Comme
qui se fait une tournée en changeant le nom de la ville. Dans
c'est ça, tu as l'impression de ne pas vivre les bons sentiments pour cette journée-là, alors que ben, quand tu as la chance d'avoir un célébrant, soit qui prend ça à cœur avec beaucoup de passion, ou encore mieux, quelqu'un qui a connu la personne qui nous quitte, ça fait toute la différence. Même pour des gens pour qui la religion n'est pas au cœur de leur vie, je veux dire, c'est quand même... un rassemblement qui est important au niveau de la famille, au niveau des émotions, des amis, tout ça. Le rôle du célébrant, puis la qualité du célébrant, tabarnouche, ça fait toute la différence du monde.
Ben écoute celle-là, parce que, bon, Marc Labrèche a été applaudi, Charles aussi, ma sœur et moi aussi, mais crois-le ou non, spontanément, le célébrant a été applaudi à la suite de son, ce qu'on appelait le bon vieux sermon,
oui,
là, tu vois ce que je veux dire, après l'Évangile, et... il a été applaudi. Tellement de forme et de fond, il a trouvé la bonne façon de livrer le bon message en 2024. Et moi, je te dis, là, moi-même, je me suis pratiquement levé pour l'applaudir et je suis allé le remercier après. Je dis, écoutez, vous venez de jouer un rôle extrêmement important. Vous vous en rendez peut-être pas compte, là, mais vous êtes une valeur ajoutée immense à ce qu'on vient de vivre au cours de la dernière heure et dans toute la fin de semaine qu'on vit. Alors, j'en suis très reconnaissant.
Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu as hâte à tes vacances, Pierre.
Ben, j'ai la voix un peu éraillée. Ça a failli me lâcher à New York dimanche passé, ouais. mais... Là, ça tient encore. Oui, j'ai hâte. En fait, on fait notre dernier match mardi. Il y a le Grand Prix de Chine qui va nous demander 3 présences avec la course sprint. Et ce sont des présences de nuit. Celles-là, elles sont plus difficiles pour nous. Mais j'ai bien hâte d'aller à Paris aussi. Je pars lundi le 22 pour une semaine d'immersion pré-olympique. Que je m'offre moi-même, vraiment. Et oui, je pète tout ça à mes frais. Parce que je vais être chef d'antenne cet été en studio à RDS. Et je trouvais que c'était important d'aller voir comment on en est à Paris. Mon chauffeur, tantôt, qui me ramenait à la maison, me disait que les travaux à Notre-Dame sont presque tout complétés.
Effectivement, c'était très avancé quand je suis passé il y a quelques mois à peine. Là. C'était impressionnant. Oui.
Ah, tu y étais, Véro? Donc, OK. Donc, t'as vu ça, t'as vu l'évolution.
Oui, puis j'ai vu évidemment, le ménage qu'ils ont fait de la ville aussi, qu'on m'avait briefé sur ce que j'allais voir versus ce que j'ai vu. Là, puis ça paraît que c'est une ville qui s'apprête à recevoir les Olympiques.
Bon, bien, quelque part, il y a un côté rassurant dans tout ça. Et bien sûr qu'on veut être prêt pour la grande visite. Mais moi, j'ai déjà commencé à cibler les sites de compétition. Écoute, il n'y a pas grand-chose que je peux faire autre que d'aller voir qu'est-ce que ça donne comme coup d'œil, où est-ce qu'on en est rendu. Exemple, le volleyball de plage qui va être au pied de la Tour Eiffel. tu sais, je comprends qu'on peut être pur et dur, traditionnel, mais en même temps, comment ne pas être au minimum curieux voire même extrêmement curieux.
Tu vas aller voir s'il se pratique déjà, hein, c'est ça, oui, c'est ça, je comprends le feeling.
Ouais. Denis, je sais qu'à chaque Jeux olympiques d'été, tu me relances tout le temps avec le volleyball de plage, je le sais, mais je te voyais venir d'ailleurs, mais c'est correct. Hey, je t'ai très remarqué qu'il y a des gars aussi qui compétitionnent en volleyball de plage, donc c'est pour tout le monde, il n'y a pas de chicane. Non, mais j'ai hâte d'aller voir, je veux aller voir le grand stade, c'est irrationnel ce que je m'en vais faire, mais je trouve que c'est irrationnel, mais essentiel. Puis c'est l'autre lien très fort que j'avais avec Paul, c'est tout notre parcours olympique qui a commencé en 76 pour nous deux, parce qu'on n'était pas juste au planétarium, ce vendredi, on était à côté du stade olympique, les piscines olympiques, de l'ancien vélodrome, et ça a été notre premier terrain de couverture en 76. Donc ça aussi, ça va être une étape qui va être bien pour ça. Alors, donc, c'est pas tout à fait des vraies vacances, là, mais il y a du temps pour s'aérer un peu à l'intérieur de tout ça.
Pierre, le Canadien achève sa saison régulière, puis malgré le fait que le Canadien fera pas les séries, chaque match du Canadien a une importance majeure sur la course aux séries éliminatoires. On a vu les Flyers s'écraser en début de semaine et hier, victoire en prolongation des Islanders de Patrick Roy. Puis je me posais la question, à chaque séries éliminatoires, il y a une équipe qui... j'ai pas de beau terme. Fuck la patente, OK? et j'ai l'impression que les Islanders de New York ont peut-être cet ADN-là d'être l'équipe qui va faire en sorte qu'on va tous perdre de l'argent dans nos poules en première ronde. Ouais, exact. Des troubles faites, voilà. Est-ce que tu as cette impression-là aussi? Parce que c'est une équipe qui est en train de terminer sa saison de façon très impressionnante. Victoire contre les Rangers
parfaits
en fin de semaine.
Ils sont parfaits là, dans le dernier parcours. Mais aussi, je veux que tu me racontes, sentiez-vous un buzz particulier à Québec hier pour le match d'hier soir?
Tout le temps.
Parce qu'il y avait un gros contingent de Québec. Hein. On en a parlé, on a montré les gens d'ailleurs qui étaient là, qui étaient allés avec plusieurs autocars. On le sentait à distance, hein, que c'était pas un match comme les autres. On sentait particulièrement qu'il y avait un gros buzz à Québec pour le match impliquant Patrick.
C'est pour ça que je te pose la question d'ailleurs, parce qu'on a comme un côté... On a un bon parti pris pour Patrick Roy ici à Québec. Là, est-ce que je vois...
Vous avez lâché les Kings pour les Islanders, c'est ça?
Ouais, là, c'est mêlant maintenant, c'est le ministre des Finances. Des fois, c'est le Canadien aussi.
De toute façon, aux dernières nouvelles, combien de matchs locaux vous allez faire au Centre Vidéotron l'année prochaine?
Je ne m'embarque pas là-dedans. moi, si on en fait peu importe combien, je serais bien heureux parce que j'aime ça aller au Centre Vidéotron, mais j'aime ça me retrouver. Mais t'as raison, les Islanders, écoute, hier, je suis sorti de là et je disais à Marc, est-ce que c'est une équipe de séries éliminatoires, ça? Puis là, c'est parce qu'on se fait prendre à vouloir être rationnel. Mm. Tu dis, ouais, ben, tu sais, Anders Lee, ça a ralenti. Brock Nelson aussi. Ouais. Cizikas, c'est un bon plombier. OK, Barzal, oui, mais Barzal, s'il est tout seul après toutes ses feintes, si ça résulte pas dans des buts importants, c'est pas bon. Oui, les gardiens ont fait leur travail cette année, mais dans le fond, là, on est sorti de là en se disant, ben, s'il n'y a rien de spécifiquement rassurant pour cette équipe-là, puis pourtant, tu regardes le classement ce matin, ouais. Et cette victoire-là d'hier, sans sceller l'issue des séries, leur a donné un sacré levier pour les séries éliminatoires. Alors, c'est ça la magie du hockey, Denis. Le hockey, à un moment donné, s'installe un momentum, un rythme, puis une équipe devient imbattable. À une très grande échelle, regarde les Prédateurs de Nashville. Regarde le parcours des Prédateurs quand ils ont commencé à tourner le vent de côté, ouais. Puis comment ils ont fini? Ils n'ont jamais arrêté. C'est quoi? C'est sur 40 matchs à peu près?
Oui.
Tu sais, bon, c'est pas tout à fait le même cas pour les Islanders, mais les Islanders vivent un peu la même chose à plus petite échelle au moment le plus névralgique, là où ça compte le plus.
Ouais.
Et je sais pas si tu as entendu Barzal même parler un petit peu en français à nos collègues hier, mais je peux te dire une chose, c'est assez clair qu'il y a une... Il voue une admiration énorme à son nouvel entraîneur, à Patrick Roy. Je pense que Patrick va être capable d'aller allumer ce qui dormait peut-être un peu chez les joueurs passionnés. Ils sont peut-être pas tous passionnés égales, là, les 24 ou 25 dans l'équipe, mais ceux qui le sont le moindrement ont maintenant allumé le commutateur. Il y a eu l'étincelle.
Est-ce que Patrick Roy pourrait devenir le Jacques Demers des Islanders de New York? Je me surprends à dire ça parce qu'on n'a jamais vu Patrick Roy comme étant un coach du type Jacques Demers, mais peut-être qu'en vieillissant, il est capable d'aller chercher cette synergie-là avec un groupe de joueurs qui n'est pas le meilleur groupe de joueurs de la Ligue nationale de hockey. Mais quand le buzz pogne dans un vestiaire, des fois, ça cause d'agréables surprises.
Mais moi, je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas farfelu du tout ce que tu dis. Ce sont évidemment des personnalités très différentes.
Oui.
Mais à la base, c'est très plausible ce que tu dis. Évidemment, le vrai test, parce que d'abord, le vrai test, c'est de se rendre en série. Ils y sont encore au moment où on se parle, mais encore faut-il qu'ils y soient officiellement. Et le vrai test, ben, demeure la première ronde. Mais la première ronde, c'est toujours la ronde de surprise. Là, est-ce qu'ils vont terminer troisième dans la métropolitaine ou est-ce qu'ils seront la deuxième équipe repêchée derrière Tampa? C'est toute la différence, Denis, parce que si tu termines troisième dans ta section, c'est les Hurricanes qui t'attendent en première ronde. Puis là, ben, tu as une équipe ultra rapide contre une équipe qui est beaucoup moins rapide avec ses vétérans. Si tu termines là où est Pittsburgh présentement, ben, tu te retrouves contre les Rangers de New York. Ils ont prouvé qu'ils n'ont pas de complexe contre les Rangers. Ils viennent de les battre il y a quelques jours.
Ouais.
Tu vois, alors il y a tout ça là qui entre en ligne de compte. Mais ton commentaire à propos de Patrick Roy, on verra ce que l'histoire va dire. Mais oui, c'est pas farfelu de dire qu'il y a des grandes ressemblances.
Pierre, je viens de remettre les sites d'information à jour sur l'ordi de ma collègue Véro. On va quand même terminer la saison 2024 en F1. Elle a-tu encore une importance? Parce que là,
tout le monde la skip.
En 2025, là, on sait qui change d'équipe, qui est où, qui fait quoi, et on a maintenant le calendrier.
on dirait que la F1 fait exprès aussi. Je te jure, je n'ai jamais été même proche, en 40 ans de vécu en F1, de voir un calendrier publié le 12 avril. C'est complètement, complètement fou.
Y a-t-il une raison en particulier?
Ben, écoute, moi, je me dis, si tu as déjà rencontré les promoteurs, tu sais qu'il n'y aura pas de nouveau Grand Prix, tu connais déjà les irritants de cette saison-ci, pourquoi pas? Ça permet... Parce qu'oublie pas une chose, un Grand Prix, là, c'est pas juste d'installer de la clôture à débris, puis des glissières, et puis des concessions de bière, puis de patates frites. Là, maintenant, ce sont des événements gigantesques. Ce sont des événements qui ont plein d'autres événements en parallèle, en marge. Le plus longtemps d'avance, tu le sais, pour organiser et l'infrastructure et organiser tout le programme, le mieux c'est. Donc, ce qu'on a dit déjà de cette année, parce qu'on vient de le vivre, on a dit, les Grands Prix le samedi, à cause du Ramadan, c'est pas bon. C'est pas à cause du Ramadan. Mais ce que je veux dire, c'est les Grands Prix le samedi, je pense qu'on n'a pas aimé vraiment ça. J'ai pas vu les cotes d'écoute globales. Probablement qu'elles étaient inférieures aux attentes, parce que à Bahreïn, en Arabie Saoudite, on a voulu respecter le début du Ramadan, qui était le dimanche 10 mars, si je ne m'abuse. Donc, on a dit, OK, on sait déjà quand le Ramadan sera respecté et célébré en 2025. On a dit donc, on va déplacer les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite en conséquence. On les a donc déplacés en avril pour permettre au Grand Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite d'être présenté le dimanche, comme on le fait habituellement. Donc, pour faire ça, il fallait revoir le début du calendrier. Puis là, ben, on revient à la bonne vieille époque, il y a très lointaine, où c'est le Grand Prix d'Australie qui va lancer.
Ça. Ah ouais.
Ouais, c'est le Grand Prix d'Australie qui revient, Véro, en début de saison, mi-mars encore là. Et là, ben, on essaie encore de concentrer dans régionalement, je dis régionalement au sens très large, là. Donc, on aura Australie et Chine coup sur coup pour commencer.
Il y a trois programmes triples dans la saison, Pierre, c'est-à-dire trois fins de semaine de course en trois semaines coup sur coup, là.
Oui. Cette année, on a une pause de trois fins de semaine. On en a une deuxième. Il n'y en aura pas l'an prochain. Okay. On garde celle du mois d'août parce que c'est le minimum pour garder tout le monde en santé physique et mentale.
Ouais.
Et puis, donc, c'est à peu près ça. C'est qu'on verra coup sur coup Australie, Chine, Japon. Et là, Bahreïn et Arabie Saoudite arrivent les 13 et 20 avril. Le Ramadan est terminé. Donc, il n'y aura pas cette réalité en toile de fond. Et ensuite, c'est à peu près le même genre de Grand Prix. Si ce n'est que le Canada reviendra la deuxième fin de semaine de juin. Cette année, on était revenu à la première à cause du calendrier actuel. Canada sera donc de retour le 13, 14 et 15 juin en 2025. Évidemment, tout ça doit être approuvé par le Conseil mondial, mais en général, c'est une formalité. Alors, vous pouvez déjà planifier la saison 2025, puis vous pouvez déjà planifier la saison 2025 avec Lewis Hamilton assis dans une Ferrari.
Voilà.
probablement Carlos Sainz, j'allais dire, assis dans une Mercedes, c'est possible. J'allais vous dire peut-être assis dans une Red Bull, mais là, apparemment qu'on veut garder Perez. Alors, il faudra trouver un volant pour Carlos Sainz. Mais déjà, 2025, vous avez le calendrier, puis vous savez déjà quels sont les grands changements là, qui nous attendent.
Il y a des changements, mais il y a des constantes aussi. Notre ami, collègue, passionné de F1, Thomas, juste avant qu'on entre en onde ensemble, me montrait un communiqué de presse officiel qui a été envoyé, puis dans la job qu'on fait, s'il y a une chose qu'on est habitué de voir, c'est des communiqués de presse hein, qui sont tous un peu bâtis de la même façon, quelle que soit l'annonce, la date et ainsi de suite, les formalités et tout et tout. Le communiqué de presse qui a été envoyé, c'est une phrase, entre guillemets, c'est marqué, il y a juste ça sur la feuille, c'est marqué « I am here to stay ». Je suis là pour rester, fermez les guillemets, Fernando Alonso. J'ai trouvé ça cute et original.
C'est cute et original. Et puis, Lawrence Stroll, quand il est allé chercher Fernando il y a 2 ans, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Enfin, je dis 2 ans, il y a 1 an et demi, là, il savait ce qu'il faisait. Et il sait très bien ce qu'il fait encore en le gardant, Fernando Alonso. Parce que là, ce qui s'en vient, c'est pas simplement les changements de pilote, puis c'est pas simplement Drive to Survive. Là. Si on regarde vraiment sur le terrain en F1, 2025, Denis, c'est la dernière année des règles actuelles.
Ouais.
Là, on est en train de plancher les règles aérodynamiques pour 2026. On est en train de travailler sur tout ce qui sera bouleversant en 2026. Au niveau des moteurs, on sait que l'intention est de retirer notamment la récupération de chaleur des turbos parce qu'on pense que ça c'est pas pertinent. On veut aller vers des carburants de moins en moins polluants pour arriver à l'objectif de zéro carbone en 2030. Donc, il y a énormément à faire pour préparer 2026. Mm-hmm. Il n'y a rien de mieux que d'avoir un vétéran comme Fernando Alonso pour préparer 2026. Puis là, imagine-toi, si on rajoute une coche, c'est qu'en 2026, Honda quitte Red Bull et s'en va avec Aston Martin. Mm. Donc, on va réunir à nouveau Fernando Alonso et Honda. Fernando Alonso qui avait dit de son moteur Honda à l'époque chez McLaren, « Je conduis non pas une F1, mais une F2. »
Oh là là!
Imagine-toi! Alors, chez Honda, on dit, on a oublié ça, on a enterré l'âge de guerre. On oublie ça. On va se réunir à nouveau avec Fernando avec beaucoup de plaisir.
La vie étant ce qu'elle est. Pierre, on te retrouve, toi, avec beaucoup de plaisir aujourd'hui. te souhaite un bon week-end, cher ami, puis au plaisir de se rejaser dans les prochaines semaines. Je veux déjà que tu te prennes une note parce que j'ai peur qu'on l'oublie avant que tu partes du côté de Paris. Mais si tu veux m'envoyer des photos des pratiques pour le volleyball de plage en avant de la Tour Eiffel. Parce que de l'immersion. Non, mais c'est important de s'immerser dans le sport olympique. Oui, avec un peu d'avance, j'apprécie.
Bon, écoute, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je vais voir des athlètes convaincants sur des terrains de sable devant la Tour Eiffel. Mais écoute, je peux te prendre peut-être s'ils sont d'accord, des passants, tu sais, des gens qui passent devant. Je vais leur demander, est-ce que vous voulez accepter d'être photographié pour Denis Gravel à Québec? Peut-être qu'on ne sait pas.
Qui c'est ce connard?
Gravel, mais c'est qui ce Gravel? Bon, en fait. Alors, je vous donnerai des nouvelles. Mais là, on se parle de quoi? On se parle de vendredi prochain?
Oui. Ben, si ça tente,
Ben oui, on va mettre la table pour les séries éliminatoires. Oui. On pourra faire nos prédictions, on pourra s'amuser.
Oui, en espérant que cette année, les Bruins passent la première ronde. Ça serait le fun.
Écoute, le problème que
tout le monde haït les Bruins. Tout le monde.
Non, c'est pas une question des haïs.
C'est d'être réaliste, Denis.
Être réaliste, Véro, mais c'est une question de quantité aussi. Combien est-ce qu'il y a d'équipes qui rêvent enfin de passer la première ronde? Tu sais, il y en a juste 8 qui peuvent passer, Denis. Il peut en avoir 16.
Je comprends.
Bon, alors, tu vois, c'est comme ça.
Pierre, merci beaucoup. Bonne fin de semaine.
Salut, bon week-end. Bye-bye.
Notre ami Pierre Houde, vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour tous les vendredis depuis des années. Notre complice de longue date, toujours un plaisir de pouvoir jaser avec Pierre de tout et de rien. J'ai apprécié qu'on fasse un retour sur les événements qu'il a vécu en fin de semaine dernière. Puis je lui ai parlé de l'éclipse et de son frère parce qu'il a posté une photo ou une vidéo de l'éclipse. Puis c'était marqué « Je pense à toi, Paul », puis j'avais trouvé ça beau. Puis j'avais pas fait le lien, tu sais, entre l'éclipse puis ce qui s'était passé du côté du planétarium. Mais en voyant le post, j'ai fait « Ouais, ça doit être beaucoup d'émotions en peu de temps, là, veux pas, là, par rapport à tout ça. » Hey, on s'arrête quelques instants. On vous souhaite un bon début de week-end. C'est Gravel dans le retour.
Gravel dans le retour.
Boulevard 102.1.